d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour à tous et toutes, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires, qui est souvent rediffusée le mercredi à 7h du matin. Ce soir, nous parlerons de deux films dans le cadre de notre série Le chômage au cinéma. Le premier, Une époque formidable, est un film sorti en 2001 de Gérard Jugnot qui parle des destins croisés de SDF. Et le second, 8 fois debout, est un conte cruel sur la précarité sorti en 2010. Premier film de Xabi Molia, qui fut primé au Festival international du film à Tokyo et à Stuttgart.
Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir Claude.
Alors, vous avez vu ces
bonsoir.
Deux...
Bonsoir. Voilà.
Claude, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi, parce que c'est toi en fait, ce n'est plus un secret, mais on sait que c'est toi qui choisis les films, pourquoi tu as choisi ces deux films-là?
Eh bien, parce que ça faisait un bout de temps qu'on parlait d'une époque formidable et je ne me voyais pas faire une émission complète sur ce film. Qui est quand même bon une certaine manière de voir les choses, mais qui montre pas tout le domaine du SDF en fait. Et à la vue de 8 fois debout, dès le départ, j'ai dit mais ça y est, c'est le film qu'il faut, c'est l'autre côté, c'est l'autre aspect du SDF, de la manière dont ça se passe. C'est un autre climat qui est donné, avec une autre histoire. Et là, c'est intéressant de voir les deux, de rapprocher les deux.
Alors, il faut dire que les deux films ne datent pas du tout de la même période, hein, puisque le film de Gérard Jugnot, Une époque formidable, date de 1991, alors que 8 fois debout est de 2010. Donc il y a 20 ans d'écart. Et le film de Gérard Jugnot, il faut dire qu'à l'époque, il a beaucoup marqué, me semble-t-il, hein, puisque le titre était ironique et un peu à double sens, une époque formidable au sens où effectivement l'aventure que va vivre Gérard Jugnot dans la rue est une époque formidable puisqu'il y a un côté un peu romantique, un peu démerdard, il y a une forme de liberté qui va vivre dans la rue. Et en même temps, il a été pris en tout cas par beaucoup de gens comme un titre au premier degré. C'est-à-dire, on vit une époque formidable. Nous vivons tous collectivement une époque formidable où un nombre croissant de gens peuvent se retrouver à la rue sans qu'on ne puisse rien pour eux.
Juste mon avis sur le problème du titre. Le titre, c'est de l'humour. Hein. C'est comme tu l'as bien dit, oui.
Pas tant que ça. Hein.
Pas tant que ça, effectivement. C'est un peu une sorte de pied de nez, c'est-à-dire que c'est effectivement, nous vivons, comme le dit souvent d'ailleurs dans certaines radios, on le dit parfois, nous vivons une époque formidable après avoir présenté un certain nombre de catastrophes dans la vie sociale.
Et après avoir vu ce film.
Effectivement, une époque formidable, le titre est évocateur, mais il parle, comme il est assez léger, il peut présenter la chose comme étant...
Oui, tu veux dire que comme le film est léger, finalement, il peut parler de choses graves tout en étant léger. Alors, ce qu'il faut dire, hein, c'est que donc dans le DVD, il y a quand même les interviews de Gérard Jugnot qui dit que justement, son idée au départ n'était pas de faire une chronique réaliste, de tirer des larmes en fait hein, de ses téléspectateurs, mais au contraire de parvenir à faire une comédie légère sur le sujet et s'intéresser plus aux personnalités des SDF que réellement à leur descente aux enfers quoi. Et donc lui-même n'avait pas l'ambition de faire un grand film tel que aurait pu être je sais pas Antoine Nilois par exemple hein, qui est un autre film sur l'errance, sur le vagabondage qui est un film d'auteur et qui est terrible parce qu'il se termine par la mort de la principale héroïne, Sandrine Bonnaire. Et donc c'était pas l'objectif de ce film-là, c'était quand même de présenter un divertissement. Et finalement, bah, il a eu de très bonnes critiques, puisqu'on a quand même dit qu'il n'avait pas été caricatural. Et c'était peut-être la bonne manière d'en parler.
Moi, je dirais que pour une époque formidable, c'est un film très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des passages très drôles, parce que c'est fait par un comique, et il y a des passages peut-être beaucoup plus marqués sur le plan de la dureté du SDF, sur le plan de la manière de vivre dans une jungle. Enfin, il y a des moments qui sont bien plus durs, en fait, que dans 8 fois debout.
Alors, ce que je propose, c'est de quand même raconter l'histoire. Alors, tout le monde la connaît un peu, hein, l'histoire de Berthier. Donc, Berthier, qui est joué par Gérard Jugnot, et qui est un cadre moyen ou un cadre supérieur dans une entreprise de matelas, si j'ai bien compris. Et donc, à la fin des années 80, et donc, enfin, qui est supposé bien gagner sa vie, quand même. Voilà. Et donc, le film commence sur ce rêve qui va se noyer. Et pourquoi? Parce qu'il a reçu sa lettre de licenciement il y a 15 jours. 15 jours auparavant. Lettre de licenciement qu'il a bien cachée à sa femme, surtout. Et voilà. Et donc, il continue à avoir des bonnes relations avec ses amis de l'entreprise, mais en même temps, il en a besoin pour être couvert auprès de sa compagne. Et puis, il passe des entretiens d'embauche. Voilà, il a besoin de se convaincre qu'il est un killer, qu'il est le meilleur. Et je vous propose d'écouter juste un petit entretien d'embauche très drôle. Voilà.
T'es le meilleur, Berthier, t'es le meilleur.
Monsieur Berthier, porte B.
Merci. Vous étiez dans le matelas?
Oui.
10 ans?
Oui, et 3 ans dans la valise avant de m'installer dans le matelas.
Et pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la valise?
À cause du sac. À l'époque, le sac a commencé à marcher et la valise est tombée.
Et l'entreprise a déposé?
Oui.
Et quelle place occupiez-vous dans la valise?
Marketing.
Et vous n'avez pas senti le changement dans l'orientation du marché?
Si, bien sûr. Je l'ai même signalé à la direction.
Qui ne vous a pas écouté?
Non, j'étais jeune, je débutais.
Jeune et donc plus agressif dans un marché plus facile qu'aujourd'hui. Depuis quand avez-vous été licencié?
4 mois.
Portez-vous des slips ou des caleçons?
Pardon?
Portez-vous des slips ou des caleçons?
Je suis obligé de répondre, là?
Des slips?
Non.
Êtes-vous pour ou contre la peine de mort?
Pour?
Pour?
Non, contre.
Pour ou contre?
Contre, enfin ça dépend qui.
Contre.
Qu'est-ce que c'est, là? Un tribunal?
Merci.
Je peux avoir une réponse, quand même?
On vous écrira.
Ça, on me dit ça à chaque fois. Alors, soyez franc. Moi, j'ai joué franc-jeu. J'ai le droit de savoir. Ça fait 4 mois qu'on me répète la même chose. Alors, si c'est non, dites-le.
Bien entendu, c'est non.
Vous venez d'entendre les démêlés de Berthier avec les deux DRH. Bah, c'est une scène qu'on a presque envie de dire qui est un grand classique. Sauf qu'elle est un peu dramatisée avec ces gens qui le filment, qui filment l'entretien, et puis qui scrutent ses moindres réactions. Les videurs qui sont derrière, qui vont s'apprêter à accompagner. Tout le monde, ça fait très 1984. Non.
Oui, complètement. Oui. Mais en même temps, c'est ça qui est rigolo, c'est que les espèces de gardes du corps ou de gens qui sont là, qui accompagnent le chômeur à la porte, je ne crois pas. Enfin, de mémoire de.
Ça ne t'est jamais arrivé.
Ça ne m'est jamais arrivé qu'on m'accompagne à la porte par deux malabars.
Postulais-tu pour des postes de cadre?
Non, c'est vrai, pas trop non plus. Par contre, ce qui est très drôle dans cette scène, c'est la question portez-vous un slip ou un caleçon?
Et pourquoi?
Parce que ça arrive souvent dans le cadre des entretiens d'embauche. Je ne parle pas qu'on pose cette question-là, mais qu'on pose des questions qui n'ont rien à voir avec le poste pour lequel on
oui,
on
c'est une façon de faire sortir la personnalité.
Voilà. Donc ça c'est assez drôle.
Alors moi, puisqu'on est dans la comparaison, je vais vous dire carrément que je préfère tous les entretiens d'embauche de l'autre film, 8 fois debout, qui sont extraordinaires.
Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2004? Ça n'apparaît nulle part sur votre CV. J'ai pris du recul, j'ai... Par rapport à ma vie, par rapport au monde du travail, j'ai beaucoup lu sur le monde du travail, un peu de philosophie. J'avais du temps pour réfléchir. Je voulais être sûr de m'engager dans la vie active pour les bonnes raisons, en fait. Et rétrospectivement, je pense que j'avais besoin de comprendre de me convaincre moi-même que le travail, c'était quelque chose de profondément nécessaire. C'était pas une évidence pour moi. Bon, ce serait prétentieux de ma part de dire que ça l'est devenu. Mais je suis maintenant convaincu que c'est vraiment bénéfique de travailler. À tous les points de vue d'ailleurs, pas seulement économique. Pour la gymnastique de l'esprit. Et pour le corps aussi. Je pense que le corps a besoin d'un rythme.
Non, ce que je voulais dire, c'est que les deux entretiens, les deux styles d'entretien d'embauche existent. Ils existent. Le plus souvent, c'est quand même l'entretien d'embauche tel qu'il y a dans 8 fois debout. Mais même si ça paraît exagéré, l'entretien d'embauche dans une époque formidable, de ces gens qui ressemblent un petit peu à un tribunal, ça existe aussi.
Bon, donc on va clore sur le chapitre entretien d'embauche, mais on y reviendra peut-être pour le deuxième film qui est beaucoup plus en nuance, enfin, qui est très touchant. Donc notre ami Berthier, comme on l'a dit, est au chômage depuis 4 mois et donc il a besoin de sauver la face vis-à-vis de sa compagne qu'il ne veut pas perdre. Il est persuadé que s'il lui avoue sa déchéance, elle va l'abandonner. Donc voilà, là c'est très c'est un peu bon voilà, ça doit sûrement se produire très souvent. Et alors, il se passe quelque chose d'étonnant, c'est qu'il est au chômage mais qu'il claque tout son argent, voilà, comme une espèce de frénésie. D'ailleurs, on va pouvoir passer l'extrait à un moment.
Quelle conne, je vais la tuer cette standardiste.
Ouais, mais avant qu'on t'arrête pour meurtre, mon fric.
Quel fric?
T'as la mémoire poreuse, mais 10 000 balles.
J'ai tout dépensé. J'ai plus rien, Malakian.
Quoi? Ton plan d'épargne? Et le chômage?
Bouffé. Saisi par la banque. Tu verras quand tu perdras ton boulot, Malakian.
Y'a un problème, là?
T'as du temps, alors tu glandes. Quand tu glandes, tu regardes les vitrines qui te font des œillades, comme les putes, tu résistes, et puis un beau jour, tu craques. C'est bien simple. Quand t'as plus de travail, tu dépenses 2 fois plus. C'est idiot ce que je te raconte, mais c'est vrai. Quand tes parents sont arrivés d'Arménie, je suis sûr qu'ils étaient plus riches que moi.
Disparais, Berthier, disparais. Pendant 10 ans, j'ai subi tes humeurs. Mais maintenant, je suis là, à l'intérieur. Et toi, tu es dehors. Alors reste-y.
Quand t'as plus besoin de tes amis, tu les jettes. Hein.
Je n'ai jamais été ton ami. Jamais.
Voilà, et donc ça, Claude, est-ce que tu as une explication raisonnable et rationnelle? Parce que toi, tu as connu le chômage en ayant de l'argent, ce qui n'est pas forcément notre cas. Une explication rationnelle à ce besoin pathologique de consommer lorsque on exclut la société de consommation?
Oui, moi j'ai pas eu ce problème-là. J'avais un crédit sur le dos, fallait faire très attention quand même, hein, parce que c'était un risque de voir un crédit pour mon appartement. Hein. Donc fallait pas rigoler avec ça, non. Mais j'ai peut-être une explication, parce que j'ai connu quelqu'un qui avait ce problème-là, qui est, paraît-il, une maladie reconnue. Sur le plan psychique, c'est-à-dire que des gens lorsqu'ils se sentent mal dans leur peau, lorsqu'ils ont des contrariétés, il y en a qui ont besoin de la boisson, d'autres qui ont besoin du chocolat, et il y en a qui ont besoin d'acheter. C'est au travers de l'achat, même de choses qui ne vont pas leur servir, mais c'est au travers de l'achat qui vont, à un moment donné, calmer un petit peu leur angoisse. Voilà.
Alors moi j'ai aussi peut-être un élément de réponse. Alors, je suis tenu par le doute aussi, hein, comme tout le monde, mais je pense qu'il y a, ça rentre dans une sorte de spirale qui touche au mensonge. Effectivement, le personnage donc est censé travailler toujours pour sa femme, et donc il fait ses cadeaux, des cadeaux hors de prix. Donc il consomme pour maintenir ce mensonge.
Il aura besoin de le prouver.
Il aura besoin de le prouver absolument.
Qu'il monte alors qu'il est en train de redescendre.
Exactement. Alors c'est ça, parce qu'en fait il est touché par il est mal en sa peau, effectivement, on sent bien. Et puis il a besoin de reconnaissance, tout en sachant lui-même qu'il est au chômage, mais il veut donner à l'image publique qu'il est toujours en train de travailler.
Oui, alors et on le voit en même temps rater des soirées qu'organise sa femme, rester dans sa voiture,
tout à fait,
ouais. Ne pas supporter le moment où parce qu'il le regard des autres.
Parce qu'il va y avoir les questions dans le cadre du repas. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va ton boulot?
Et puis, il va devoir mentir, ouais. Encore une fois.
Et ce qui est marrant, c'est que dans cette même spirale, il met son collègue, son patron, enfin son responsable direct, dans la confidence pour qu'il le soutienne si jamais sa femme appelle. Enfin bon, on écoutera tout à l'heure peut-être un passage.
On va écouter là tout de suite, c'est une phrase, c'est... Allez, on va écouter.
Mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi? Je ne pouvais pas comprendre.
Oh, Juliette...
C'est trop con, une hôtesse, c'est ça? Eh ben j'ai eu 15 jours de mise à pied à cause de toi. 15 jours.
Je voulais te faire une surprise.
C'est réussi. D'abord, pourquoi on t'a viré?
On m'a pas viré, j'ai donné ma démission.
Oui, c'est ça. Et la Volvo, tu l'as pas vendue non plus?
Juliette, tu te souviens de la conversation qu'on a eue l'autre soir au sujet du rapport travail-plaisir? Tu te souviens?
Non.
Toute la nuit, tu m'as supplié de vivre en harmonie avec moi-même. Et ben, tu m'as convaincue, Juliette, alors je l'ai fait.
T'as fait quoi?
Petite fabrique de meubles dans les Deux-Sèvres. J'ai rendez-vous demain matin pour la signature.
Tu as...
Racheté la petite fabrique dans les Deux-Sèvres. Enfin, demain. J'ai besoin de créer quelque chose, Juliette.
Mais avec mon fric, ça m'en parlait.
Oh, l'argent. Mais qu'est-ce que vous avez tous à être obsédés par l'argent?
Il a raison, il n'y a pas que l'argent dans la vie.
Tiens.
C'est où les Deux-Sèvres?
Tu verras, Émilie, c'est très beau, c'est la campagne. Un ancien corps de ferme avec des bâtiments énormes et des dépendances à plus savoir quoi en faire. On pourrait avoir des poules, des lapins et des chevaux même.
Et des poneys?
Des poneys, bien sûr, des chèvres.
C'est génial!
Et moi, je ferai des fromages?
Non, toi, tu changes rien à ta vie. C'est à moi de changer.
Tu nous quittes, ensemble?
T'as encore rien compris.
Oh, toi, tu la fermes! Tu vas dans ta chambre avant que je me fâche! Venga, à la gamme, et que je vous vois plus, hein! Non seulement tu t'es fou de moi, mais en plus tu me fais passer pour une dingue devant les mômes. C'est minable, Michel!
Logique, je suis minable.
Non, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, moi.
Tu penses tellement fort, tu sais. Je sens tout.
Parano en prime.
Non, lucide. T'as plus besoin de moi? Ça, il y a 7 ans, quand je t'ai ramassé complètement largué avec tes deux moutards sur les bras, ça.
Tu m'as ramassé où?
Tu savais même plus qui t'étais.
Mais tu m'as ramassé où là? T'es chez qui ici?
Non, je sais. Je suis chez toi, c'est ta maison, payée par tes parents avec tes enfants. Y a rien à moi ici. Tu me l'as toujours fait remarquer avec beaucoup de délicatesse. Alors partir, c'est pas vraiment un problème.
Est-ce que tu penses ce que tu viens de dire, Michel? Michel, est-ce que tu penses ce que tu viens de dire? C'est moi qui te pose la question. Tu le penses?
Non seulement je le pense, mais je le fais.
Mais vas-y, casse-toi. Pour une fois que tu ferais quelque chose.
Tu permets, je prends quelques bricoles qui m'appartiennent quand même.
Ah bah bien sûr, tiens. Ça c'est à toi. Comment? Et les cassettes aussi, les compacts aussi. Ça aussi, comme ça fera de la place. Qu'est-ce que tu fais?
Je prends le tissu, c'est moi qui l'ai posé.
Mais c'est pas vrai, arrête, Michel.
C'est mon tissu.
Arrête,
c'est mon tissu. Arrête,
t'as pas le droit. Michel, si tu fais ça, je t'arrache les yeux.
Tant mieux, comme ça je verrai plus ta gueule.
Mais n'oublie pas tes polars de merde. Hein, la testa, parti.
Oui, j'ai une petite remarque qui est marrante, que j'avais pas vue au début du film, mais... La scène, c'est une grande scène de ménage en fait. Elle est à l'envers de ce qu'on retrouve dans chez Fedo. Chez Fedo, c'est la mauvaise foi féminine, hein. Et la scène de ménage, c'est la mauvaise foi féminine qui ramène toujours des choses qui n'existent pas. Et là, c'est l'inverse. C'est lui qui est au chômage, qui amène la scène, alors qu'elle, elle a pas du tout dit ça, elle a pas du tout dit qu'elle voulait le virer, et c'est lui qui monte le truc. Alors par contre, c'est bien plus dramatique, mais c'est un petit peu la scène de ménage à la Fedo qui est à l'envers.
Oui, en fait, alors ça c'est marrant, parce que c'est très curieux, parce que Gérard Jugnot, quand il parle de ça, il dit finalement c'est quelqu'un qui décide de faire un stage dans la rue. Donc, bien indiquant bien que c'est son choix de quitter le domicile, en fait, et donc de faire une petite scène. En fait, ce monsieur, il voudrait que les choses se passent telles qu'elles devraient se passer normalement, c'est-à-dire c'est une victime. Une victime de sa boîte, et tant qu'à faire, autant qu'il soit victime de sa famille, de sa femme, il faudrait que ce soit, en fait, il faudrait qu'il soit une grande victime, et donc qu'il monte tout en bateau pour pouvoir ou partir dignement en disant bah tiens, moi je te fais une vraie scène de ménage, et puis on n'en parle plus. Et alors ce qui est marrant, c'est que dans cette scène-là, par rapport à des tas de situations qui sont beaucoup plus dramatiques, bon là on est dans une comédie, c'est que on a encore, pour parler du chômage, on a toujours l'exemple de l'entourage autour qui est assez solide, qui est compréhensif, un peu comme dans le film Mort d'un commis voyageur, où l'entourage est vraiment présent, mais ça n'empêche pas la personne de chuter, en fait, et de chuter par elle-même. Et apparemment, c'est, semble-t-il, un débat de certains spécialistes des SDF qui disent qu'il y a une part de volontarisme quand on est SDF, alors... la responsabilité, mais là c'est ça, c'est que la personne fait ce choix-là à ce moment-là, alors qu'elle a il lui restera toujours une position de recours, de repli en fait, et ça c'est dans la majeure partie des cas, c'est pas forcément, c'est pas la la vérité ou la réalité, même s'il y a une partie de vrai. C'est-à-dire qu'il y avait finalement une des causes aujourd'hui importantes, disons, des SDF, peut-être temporaires, mais pas définitives, et quand même la rupture avec le conjoint, qui rend très compliqué le relogement.
Alors moi, j'ai trouvé trois choses importantes dans cette scène qui me parlent beaucoup, en fait, hein. La première qui me parle le plus, c'est le fait que le chômeur en question vit avec une femme qui a deux enfants qui ne sont pas les siens. Donc c'est une situation que moi j'ai connue personnellement. Et c'est vrai que c'est très très difficile de dire à ces deux enfants, que soient les siens ou pas les siens d'ailleurs, que son papa ou son beau-père est sans travail. Ça c'est une difficulté qui est majeure, d'autant
et,
plus...
Et on a moins de scrupules à quitter le domicile quand il s'agit pas, quand il n'y a pas ses enfants.
Hein. Exactement, tout à fait. Hein. Et la deuxième chose, c'est quand même que effectivement, la mauvaise foi de l'homme qui ment, qui va même jusqu'à dire qu'il va monter une société ou une entreprise de bois en province, c'est pour montrer à quel point il s'enferme dans son mensonge parce qu'il ne peut pas lui-même, il peut pas se dire à lui-même sa propre vérité, en fait. Il a du mal même à accepter. C'est ça, c'est une faute d'acceptation du problème qui le touche. Et, comme on ne se souvient pas, on avait déjà parlé d'un film une fois où la personne ment jusqu'à la fin, elle finit par se suicider, elle va jusqu'à travailler à l'ONU, enfin c'était un film qu'on avait plus ou moins parlé. Et là, on est dans le même domaine, on est dans le domaine, effectivement, on est obligé de s'enfoncer dans le mensonge, comme l'a fait d'autres, même des politiques, on l'a vu dernièrement à d'autres niveaux, parce qu'on peut pas savoir soi-même qu'on est pris dans un piège et qu'on peut pas s'en sortir, en fait. Hein.
Alors voilà, Monsieur Berthier, officiellement SDF. Il a quitté sa femme, il a pris ses affaires et sa voiture, surtout sa voiture, et il roule dans Paris. Voilà, il met pas une nuit avant de se faire dévaliser l'intégralité de ce qu'il a dans sa voiture. Alors en fait, il y a une remarque quand même, à mon avis, hein, dans le film, c'est que en fait, ça c'est l'épisode de la chute qui va passer du statut de personne qui dort dans sa voiture, ce qui est enfin, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans leur voiture et qui sont... Enfin, ça les préserve, justement, c'est la dernière chose qui leur reste avant la rue. Voilà, on n'a pas forcément conscience de ça, mais avoir une voiture, c'est pour un SDF, c'est extrêmement précieux.
Ah, c'est une maison mobile, quoi.
Exactement, mais exactement. Bon, c'est évidemment pas bien aménagé pour ça, mais il va falloir y penser. Et puis arrive le moment de se laver, parce que là... enfin. C'est des problèmes quotidiens qu'on a complètement oubliés, que des gens normaux oublient, mais qu'à la rue, ça devient aussi une question de survie un peu. C'est-à-dire, faut être propre sur soi, faut au moins une fois tous les deux ou trois jours, parce que ça devient vite insupportable et il n'y a pas d'endroit pour ça. Et les endroits publics sont pas fréquents. Ça demande beaucoup de contraintes d'aller dans les douches publiques. Et donc notre ami Gérard, après avoir tenté de voler, de quoi manger, finalement se retrouve au matin se retrouve à devoir se laver. Et c'est là où il fait la rencontre des SDF qui sont là aussi à 6h du matin dans la gare à Gare de l'Est.
Bien dormi ?
J'ai voyagé toute la nuit.
Train auto ?
Oui, j'arrive du midi.
Ah ! Gare de l'Est !
Pousse. Ah, volontiers, j'ai tout oublié dans ma voiture.
Dame. Crayon, rasoir.
Hop, allez, priez de ne pas le jeter.
Merci.
Oh, vous nous remercierez en payant le jus.
Avec plaisir.
Bonjour, mes princes.
T'as déjà dit qu'on voulait pas de toi ici. Qu'est-ce que tu viens foutre?
Ah, pisser? Pourquoi? Il y a une loi qui interdit de pisser ici.
Tu pisses aux chiottes maintenant.
Et alors ? En démocratie, non ?
Voilà. Et donc là, on rentre dans la. Donc on a écouté l'extrait, là, on va l'écouter. Et c'est là qu'on commence à voir un peu. C'est le moment où il rentre dans le monde donc des vrais SDF.
Le monde de la rue.
Voilà, le monde de la rue. Et tout de suite, on a presque envie de dire qu'il y a une typologie. Alors par exemple, il y a. Alors. Bon, il y a Richard Bohringer, il s'appelle Toubib, mais qui est, semble-t-il, un peu un chef de bande. Chef de bande. Et puis, il y a Mimosa. Mimosa, qui est le grand balèze. Et alors, lui, qui paraît presque être le caractériel, l'inadapté par
parano, bagarreur, etc.
Mais qui pourrait passer un peu pour le type qui n'a aucune chance, en fait, d'être dans un environnement normal et simple. Et puis arrive là-dessus un vrai clochard, tel qu'on en voit avec le litron de vin, le bonnet, et tout de suite dans la scène on voit que cette personne-là est immédiatement rejetée du groupe. Parce que on fréquente pas les mêmes, c'est pas les mêmes gens. Il y a ce côté-là. Et donc, on rentre tout de suite dans cette scène-là. On rentre sur les deux principaux, enfin pas les deux principaux, mais deux problèmes majeurs qui sont l'hygiène pour les SDF et puis le côté très violent de la rue, de violence à la fois entre les SDF et puis de possibilités de vol. Parce que donc Gérard Jugnot, en une nuit, il perd tout en fait. Hein. Sa voiture, il perd même sa voiture finalement via la fourrière, mais il va la récupérer. Et il y a encore autre chose qui apparaît, c'est dans les rapports entre les SDF. Là, il tombe dans une bande, il est adopté par la bande, mais il est adopté par la bande parce qu'il présente tout de suite un intérêt, parce qu'il a des clés de voiture, et que sa voiture, ça va représenter quelque chose pour... ça va représenter... Un avantage
de resocialisation peut-être éventuellement
pas de resocialisation, ouais. Mais c'est-à-dire que c'est un avantage pour les SDF, c'est un atout, c'est un endroit où ils vont pouvoir dormir, où ils vont pouvoir se déplacer et donc voilà, on rentre là tout de suite, on est dans le domaine de la rue, et la rue ça veut dire le plan, le système D, la débrouille pour ne pas tomber totalement dans la clochardisation. Et donc Richard Bohringer, donc Toubib, lui dit tel que tu vis là, si on n'est pas là, tu je te donne 15 jours pour finir la cloche, c'est-à-dire devenir complètement clochard. Et devenir complètement clochard, ça veut dire en fait y avoir une espèce de lâcher prise, renoncer à se battre pour survivre, boire. Donc, voilà, donc c'est tout le film est là-dessus en fait, c'est-à-dire que Gérard Jugnot, il est via la rencontre qu'il fait et via le côté un peu collectif des clochards, l'entraide et à la fois enfin il y a une entraide mais il y a aussi une utilisation, on va le voir, hein, ils vont essayer de l'abandonner, ils vont essayer de s'en débarrasser, il est au-dessus de il garde un espoir de revenir, en fait. Hein,
allez, viens. Allez, arrive. Pose ta soupe. Crayon, accessoire.
Oui, tout libre.
Vous êtes médecin?
Ancien brancardier, mais j'ai les notions.
Vous pouvez lui faire confiance, hein, monsieur?
Berthier, Michel Berthier.
Ah, vous pouvez lui faire confiance, monsieur Berthier. Il m'a sauvé la vie, à moi, le toubib. Hein.
Ah, comme ça, t'es sans domicile.
Provisoirement.
Oh, mais il y a du provisoire qui dure, hein.
Ah, j'en suis pas à tendre la main, quand même.
Oui, mais c'est pas n'importe qui peut le faire, pas vrai, toubib?
Je confirme. L'important, c'est pas la main, c'est l'œil. Si tu tends la main, les gens passent. Fini. Faut capter l'œil. Tout est dans l'œil. Dès que t'en captes une paire, faut plus la lâcher. Crayon.
Toubib.
Lève-toi et boite. Regarde le travail.
Vous n'auriez pas 10 francs, monsieur.
C'est ridicule.
Répondez.
T'as qu'à bosser, feignant.
Bien, monsieur Berthier, il a raison.
Il aimerait bien travailler, mais sa jambe a été happée par une treuille sur le chantier.
Menteur.
Il a 3 enfants handicapés.
Et moi, j'ai rien à donner, j'ai plus rien. J'ai plus de travail, plus de famille. Et ma voiture?
Ouais.
À la fourrière.
Ouais, t'as raison, Ludo. Moi, ce que j'ai entrevu dans cette scène, c'est quand même que même dans cette classe sociale qui est complètement déstructurée, ce qu'on appelle la cloche, effectivement, comme ils le disent dans le film, même dans ce groupe de clochards, ils créent eux-mêmes des classes et des sous-classes, en fait. T'as la classe des clochards qui se lavent, qui ont quand même une bonne éducation, qui sont des brouillards, etc. Et puis, tu as une autre classe qui est différente, qui est effectivement le mec qui boit, qui se lave pas, je vais dire ça vulgairement, mais qui pisse debout n'importe où entre deux voitures, etc. Et quand il vient faire ses besoins dans la gare, on lui dit, bah, tiens, tu pisses maintenant dans les toilettes, toi, c'est nouveau, tu vois. Donc il y a dans ce groupe de cloches, il y a quand même effectivement une recréation de différents niveaux de. Alors bien sûr, les gens sont ensemble par amitié ou par concordance de point de vue, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est des gens qui se regroupent par classe. C'est-à-dire la classe des gens qui sont un peu instruits, ceux qui boivent, qui sont ensemble. Alors, c'est caricatural, évidemment. J'entends bien. Mais c'est quand même assez bien vu, quand même, je trouve.
En fait, Gérard Jugnot, il y a une chose qu'il doit faire quand il arrive, c'est d'accepter sa situation par rapport aux autres. Et donc, il continue dans son mensonge. Et finalement, c'est le but de sa thérapie dans la rue, c'est-à-dire d'accepter de déchoir et de voir le pire et d'être accepté, voilà. Et donc on le voit dans cette scène-là, il est toujours dans un et il a affaire à des gens qui, comment dire, acceptent leur situation, mais surtout la vivent, on a envie de dire pleinement, c'est-à-dire essayent de tirer quelque chose de cette situation-là, c'est-à-dire de continuer à vivre. Et alors c'est intéressant parce que dans le film, on va le voir très progressivement, donc on va voir l'errance, hein, on va voir le marchand de sommeil, le gardien de parking qui profite en fait de la situation des SDF, et notamment des SDF étrangers et de sans papier, pour utiliser son parking, enfin pour vendre des places de parking pour là où les gens dorment. Mais donc on va voir aussi les problèmes de drogue en fait. Ça, c'est l'alcool ou la drogue. Mais ce qu'il y a, c'est que parmi ces gens, on peut le dire, à la fin, finalement, ne restera plus que Richard Bohringer, donc Toubib, qui est le plus éduqué, en fait, de réellement clochard. Bon, une des personnages va mourir dans le film. Gérard Jugnot va retrouver sa femme et puis le troisième comparse lui va trouver un poste de gardien de nuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc le personnage de Toubib en fait est un des personnages qui est à la rue par instabilité en fait, puisqu'il pourrait visiblement avoir des compétences à l'époque, hein, telles que les personnes de film pourraient avoir des compétences pour avoir une, et donc là il y a cette chose en fait de certains SDF, c'est-à-dire que être SDF c'est une violence qui est subite, mais c'est aussi dans certains cas c'est pas un choix, mais en tout cas le résultat d'un parcours de vie, ce que montre pas du tout le film, hein, dans l'arrivée de Gérard Jugnot qui pour son travail qui est comme ça, bon c'est pas très crédible, mais par contre les personnes qui ont des histoires familiales très très difficile, un père mort, peuvent vivre une instabilité sur la longue durée, et il semble que ce soit le cas de Toubib, hein, qui est pourtant le plus malin, le plus, voilà.
Où tu vas dormir? Dans les cartons comme un clochard? Et ta bagnole?
Je crois qu'il est cuit.
Toi, je commence à me méfier de tes temps de cuisson.
J'avais un client ici. Suzanne, ouvre-moi.
Ah, eh ben, qu'est-ce que je t'avais dit?
Et qu'est-ce que vous m'avez encore dit?
Que M. Berthier gagne à être connu. Voilà.
Alors, Crayon, qu'est-ce que tu penses du modèle Annapurna?
Je baigne dans mon jus. Je savais pas qu'on allait dormir aux Antilles.
Ça, le meilleur des polyesters remplacera jamais le duvet d'oie. Tu te crois où, toi? Au Club Med?
Mon petit Berthier, c'est pas un novice comme toi qui va me donner les leçons d'hygiène. Le pied, c'est un capital. Si tu t'en occupes pas chaque jour, ça bourgeonne, ça se mycose. Et quand le panard, il s'en mêle, faut amputer. Et dans le métier, ça plaît pas les amputés. On n'est pas aux Indes.
Tu m'excuseras, j'ai pas l'intention de faire carrière.
Alors on voit cette joyeuse bande, hein, quelque part, qui fait contre mauvaise fortune bon cœur, et donc qui est effectivement dans le système D, le plan D. Alors le plan D, c'est quoi? C'est par exemple aller cambrioler l'ancienne entreprise de Gérard Jugnot pour récupérer les matelas et surtout des duvets pour bien dormir le soir, aller dormir dans le patio de gens richissimes, voilà, où il y a de l'eau pour se laver. Alors moi sur l'hygiène, c'est que finalement c'est quand même assez peu abordé, hein, les problèmes d'hygiène des SDF. Oui, donc l'hygiène, en fait, moi je trouvais pas très très abordé, alors que c'est primordial, et puis ça joue énormément. J'imagine, hein, pour dans l'image qu'on a de soi, dans alors peut-être qu'on s'habitue, c'est possible. Par contre, oui, l'entourage ne s'y habitue pas. Et alors, si, il y a une réflexion qui est super sans un peu comme, bon, toute proportion gardée, dans les camps de concentration, sans chaussures, tu n'es rien. Parce que c'est de là. Et il faut entretenir ses pieds, parce que tout va dépendre de la marche, ce que tu peux faire. Et donc, oui.
Mais il y a une chose qui me paraît importante dans cette scène, comme dans les autres d'ailleurs, c'est la présentation de soi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu disais que l'hygiène, ça compte, et ça compte énormément. Mais aussi la façon dont on est habillé, c'est-à-dire la façon dont on se présente à l'autre. Parce que, bon, Bourringer parle du regard. En fait, c'est le problème du regard qui pose. Le film parle, en fait, de ce regard qu'on a sur les gens, sur ces gens-là, tu vois. C'est-à-dire que comment les gens voient les SDF aujourd'hui, comment ils le voient dans le film. Comment les SDF se voient eux-mêmes, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu ça le fil directeur un petit peu
Moi je trouve pas, parce que finalement à partir du moment où il rentre dans le monde donc des SDF, effectivement, comme on l'a dit, c'est une espèce de société parallèle, et où les SDF sont contraints de côtoyer, alors par exemple les éboueurs à 5h du matin. Et ça devient un peu leurs potes, et on leur raconte les Léonard vol de la nuit et qu'on a trouvé dans la poubelle, ou de côtoyer effectivement le veilleur de nuit de parking, qui utilise son parking comme endroit où il peut faire de la prostitution, et donc on voit effectivement dans le film on ne voit que des marginaux, et le fait des situations un peu exceptionnelles, le fait de pouvoir se retrouver à minuit tout en haut d'un gratte-ciel parce que grâce à son copain qui est veilleur de nuit. Donc, il y a, en fait, dans ce film, hein, il y a un côté quand même romantique. Vous me dire ce qui est, je veux dire, peut-être pas idéalisé, mais c'est une comédie où, heureusement, voilà, ça va pas durer longtemps.
Qu'est-ce que tu fous? T'as perdu quelque chose? Oh, tu devrais essayer, c'est géant de pisser de là.
Eh, mais chiottes, Berthier!
Eh, viens voir au moins! Tiens, viens. Dans mes bras. C'est trop beau. Je te tiens!
Fais pas le con, j'ai le vertige.
Tu risques rien! Regarde! Tu regardes ou je te jette?
J'ai vu!
C'est beau le vide. Puis c'est tellement simple.
Mais t'es con ou quoi? Qu'est-ce que t'as dans la tête, du jus de cerveau? Tu veux que je te dise? T'es pas fait pour être pauvre.
Et toi?
Ça se mérite. Toi, ta vie, c'est pas ça. Tiens, l'hiver où il faisait si froid. Je suis rentré au cinéma et j'ai vu un film avec le monstre qui se perdait sur la Terre. Eh ben, t'es pareil.
Tu le finis pas, ça?
Non. Maison qui gueulait, le monstre. Oh, lui, il avait pas peur de dire qu'il voulait rentrer. Oh, le con, maison.
Je préfère être libre.
Dormir dans des cartons, ça, oui, t'es libre de dormir dans les cartons.
J'ai pas de maison.
Si. Donc il y en a un autre, ça. T'as vu ses yeux? Je croyais pourtant t'avoir appris à lire dans les yeux des gens. Il a besoin de toi, le gamin. Regarde ce que ça donne à un gamin sans père.
Moi, dans cette dernière scène, je vois quelque chose aussi qui va orienter tout à fait la fin du film. C'est-à-dire que notre héros, se retrouvant dans un milieu qu'il ne connaît pas, où on lui apprend à vivre, comment il faut faire, mais c'est pas lui qui domine, alors qu'il était un cadre quand même. Il a tout à apprendre. Il est dominé par les autres, ses compagnons quand même. Hein. Et puis là, il trouve, totalement involontairement, mais un point faible du meneur. C'est-à-dire que le meneur a pris le vertige, alors que lui n'y est pas du tout. Il a une réflexion qui fait que on se demande s'il n'a pas envisagé de se suicider à un moment donné, mais on voit tout de suite que non. Il aborde l'idée, mais il y renonce à ça, très rapidement. Mais il s'aperçoit surtout que le leader, eh ben, il a un point faible, c'est le vertige. Et ça, c'est pas le fait que l'autre ait un point faible, mais ça lui redonne une certaine confiance en lui. Et l'autre va lui convaincre en plus de dire, bah, écoute, t'as un domicile, retourne dans ton domicile, quoi. Et je pense que s'il n'y avait pas cette scène-là, s'il n'avait pas, ça serait peut-être pas terminé comme ça.
Oui, alors c'est ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit des limites, je sais pas si on peut dire, mais de la faillibilité de Toubib, qui est effectivement qui est un démerdard, qui a une grande gueule, mais qui n'a peut-être pas les ressources ou la volonté de sortir de ça, et qui voit bien que dans le cas de Gérard Jugnot, il peut s'en sortir. Mais alors, ouais.
Alors moi je vois. Moi, je vois dans cette scène autre chose, c'est-à-dire que quand tu parles de Jugnot qui tente, on suggère qu'il va se suicider, alors qu'effectivement c'est pas le cas, tu l'as dit à l'instant. En fait, il fait ce qui est intéressant, c'est qu'il il pisse d'un haut d'immeuble dans la rue. Enfin bon, et ça c'est très marrant de voir que ça c'est intéressant de voir ça parce que ce cadre qui lui dans son métier est une autorité, hein, puisqu'il est responsable d'un groupe de personnes qui travaillent pour lui, qui respecte les règles de l'entreprise principalement, qui respecte la hiérarchie dans son travail. Tout à coup, se retrouve dans la rue, et qu'est-ce qu'il fait ? Il pisse d'un haut d'un immeuble, et donc il casse toutes ces règles-là qu'il a donc. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, la déstructuration a bien fonctionné, quelque part.
Exactement, qu'il y a une espèce de lâcher prise, d'acceptation de lui-même, d'acceptation de sa condition. Mais ça, c'est marrant parce que dans le film, c'est peut-être pas trop montré, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire le besoin de détruire cette espèce d'injonction à avoir un métier, à avoir une famille, une maison, à devoir assurer en fait, hein, et à se prendre 4 mois de vie dans la rue pour, au bout de 4 mois, être revenu d'enfer et lâcher prise avec tout ça, quoi. Alors moi, je voudrais faire quand même une remarque, parce que, enfin, donc on l'a dit, le film est une comédie, donc Berthier, alias Gérard Jugnot, a une position, une situation de repli, une position de repli depuis le début du film, et puis son entourage ne juge pas, nana, et puis c'est pas ça qui compte, voilà. Et donc il y a une espèce c'est une comédie romantique, dramatico-romantique, voilà. Et d'ailleurs, Victoria Abril joue vraiment très très bien, vraiment, j'ai adoré, avec beaucoup de naturel. Et mais bon, en fin de compte, ce film n'aborde pas, à mon avis, hein, y a deux choses qui sont pas abordées. C'est qu'en définitive, on est encore dans une période, peut-être, où l'environnement familial peut être un soutien et plus qu'un soutien. C'est-à-dire que un SDF, c'est d'abord quelqu'un qui est désocialisé et qui n'a plus d'entourage pour l'héberger ou qui a rompu les liens avec sa famille. Et je veux dire, il y a une évolution au cours des 20 dernières années qui font quand même que les couples sont quand même beaucoup, beaucoup moins stables qu'ils ne l'étaient. Et une des causes aujourd'hui des SDF, c'est d'abord la rupture avec le conjoint et donc l'incapacité à se reloger. Et donc je rappelle pour l'anecdote que la mairie de Paris a lancé son service de logements sociaux pour ses personnels le jour où elle s'est aperçue que certains de ses personnels donc de la plus basse catégorie dormaient dans leur voiture tout en travaillant. Et voilà. Et la cause principale de ces gens, c'est qu'étant devant se séparer, Le marché de l'immobilier faisait qu'il n'avait plus la possibilité de se loger. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que c'est un film des années 90, et il y a une chose qu'il n'aborde pas non plus, c'est les jeunes SDF. C'est-à-dire que, pour donner des statistiques, aujourd'hui à Paris, 22% des hommes SDF ont entre 16 et 30 ans. C'est énorme, hein ? Un quart des hommes SDF, un cinquième des hommes SDF. Et donc, après, on peut imaginer qu'il y a toutes les situations, des gens qui ont fugué, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de travail. Et donc, vous voyez, le phénomène en fait des sans-domicile fixe s'est accentué dès l'entrée, dès l'entrée sur le marché du travail, on va dire. Donc c'est pas seulement la rupture du travail qui fait ça. Et alors, pour vous donner une idée, hein, 48% des femmes SDF à Paris ont entre 18 et 30 ans, et une bonne partie d'entre elles ont un gamin. Et donc aujourd'hui, je veux dire, le phénomène s'est rajeuni. Et donc évidemment, parmi ces gens-là, il y en a un petit tiers qui a des petits boulots, des CDD. Le phénomène s'est rajeuni et il est devenu, et là pour le coup, il est à la fois lié, donc certes à la situation professionnelle, mais au fait que à ça s'ajoute l'impossibilité de se loger. Et donc le phénomène est devenu encore plus dramatique, et on va le voir dans le deuxième film, où là, on a de fait des gens qui, dès le départ, ne peuvent pas s'adapter au sens large du terme, hein, au travail.
Ceci dit, c'est quand même un bon film. Effectivement, les acteurs sont magnifiques dans ce film. Et c'est un film à voir et à revoir, je crois.
Et ben, je propose d'écouter la chanson de Cabrel qui conclut le film.
Très bien.
Tôt ou tard, s'en aller par les ruisseaux devant nous, jusqu'au milieu d'une mer quelconque, sur le pont brisé d'une jambe qu'on va tôt ou tard s'en aller. Quelques vestes froissées, quelques cartons en morceaux, dans le foulard huileux de la nuit, juste nos corps frileux endormis sur quelques vestes froissées. J'avais des rêves, pourtant j'avais des rêves, j'avais des rêves, oh pourtant.
Alors, on aborde le deuxième film. Donc, c'est vrai que traiter deux films en une fois, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un film qui est beaucoup plus récent, donc 2010. Ça s'appelle 8 fois debout, hein, et c'est de Xabi Molia. Et c'est un film qui est beaucoup plus réaliste et très très contemporain, tout en étant presque poétique, on a envie de dire. Alors, grosso modo, hein, pour l'histoire, c'est quoi ? L'histoire, c'est deux personnes qui cherchent du travail. Mais qui n'ont pas l'air très motivés plus que ça par le monde du travail, et qui sont une espèce de qui sont un peu inadaptés, un peu rêveurs tous les deux, un peu en marge. Alors il y a l'homme qui est joué par Xavier Denis Podalydès. Alors je vais passer sur la deuxième personne, hein, Julie, qui est jouée par Julie Gayet, et là c'est beaucoup plus dramatique, sa situation est beaucoup plus dramatique parce qu'elle a un enfant qu'elle a du mal à voir tant qu'elle peut pas assurer le minimum et vital, hein, pour lui, donc c'est-à-dire l'appartement décent, et donc c'est une souffrance épouvantable pour elle. En plus elle est assez jeune. Et c'est pareil, elle se retrouve SDF très vite, mais elle est dans une complète incapacité à trouver du boulot. Et là, pour le coup, il y a un vrai blocage dont on ne sait pas très bien d'où il vient.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous foutez là?
C'est parce que j'ai mon lit qui s'est cassé en plein dans mon sommeil.
Eh ben, vous dormez par terre et vous faites vos travaux demain. Si vous voulez, les 3 heures du matin, là.
Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai un entretien demain. Je voulais essayer de bien dormir.
Un entretien pour quoi?
Pour un travail. Dans la communication.
Non. Moi, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de jouer avec la catégorie loisirs. En mettant quelque chose un peu hors du commun, comme ça tu sors du lot.
Ah oui, oui. Ouais, par exemple, tir à l'arc, puis ensuite tu bronnes. Mmh. Ouais, moi, ils m'ont dit pareil. Hein. Bah, du coup, j'ai mis tir à l'arc.
J'ai mis marche à pied et kabuki.
Hein?
C'est du théâtre japonais.
Ah oui, non, non. Je vois ce que c'est. Et ça a marché?
Ben... J'attends deux réponses, là. Enfin, une, surtout. Vraiment importante.
Oui, donc, kabuki, ça fait compliqué, mais... En même temps, c'est très beau.
C'est vrai, tu trouves?
Oui, je sais pas. Sur un CV, tu vois marqué kabuki, tu te dis... Bon, ben, là, ça doit être quelqu'un d'intéressant.
Tiens, là, c'est bien aussi, hein. Ça fait sportif, mais intelligent.
En atteignant le but, on a manqué tout le reste.
Pardon?
C'est un proverbe zen. Avant, j'essayais de le placer à chaque fois qu'on posait une question sur le tir à l'arc, mais en fait, je suis pas sûr que ça donne l'image du type qui veut réussir.
En atteignant le but...
On a manqué tout le reste.
Ouais.
C'est un peu ambigu. Je veux dire, pour un entretien.
Mon cousin aussi m'a donné un proverbe pour les entretiens, mais bon, j'ose pas encore. 7 fois à terre, 8 fois debout.
7 fois à terre, 8 fois debout. Mmh. Ça fait la fille qui veut réussir.
Ça fait aussi la fille qui se casse souvent la gueule.
Oui, il y a une chose qu'on peut constater quand même dans ce film qui, lui, est récent. C'est que le travail, ce ne sont que des gens précaires, des boulots précaires. Hein. Chez Junio, lui, il était cadre, il y a des difficultés, il y a des licenciements, mais les gens ne sont pas, ils sont pas précaires. Ils sont plus, ce que moi j'ai connu par exemple, dans le domaine du travail. Et là, par contre, ces gens-là sont dans la précarité. Et l'acceptent, c'est l'état qu'on a à l'heure actuelle, quoi. Ils ne se reconnaissent pas comme chômeurs, ils sont précaires, avec des petits boulots, avec des boulots même clandestins, puisque ce qu'elle fait, le nettoyage qu'elle fait, il y a pas mal de petites aventures autour de ça, et on s'aperçoit que c'est du pas déclaré, c'est du pas déclaré par le patronat, c'est du pas déclaré par elle, c'est du... Voilà, c'est...
Il y a deux choses. D'abord, c'est que ça se passe en province. Et donc, en province, c'est quand même très... Enfin, les conditions de travail peuvent être très, très dégradées, notamment dans les services. Donc, effectivement, alors là, on la voit postuler à... Le seul travail qu'elle va pouvoir peut-être obtenir, c'est un poste de caissière. Puis ensuite, elle aura un poste de vendeuse. Et alors, au début du film, moi, ce que je trouve très marquant, c'est qu'il y a cette espèce... Voilà, le film commence sur un entretien où elle se fait trier parce qu'elle parle pas anglais. Et puis il y en aura d'autres. Et au début du film, cette espèce de aller avec son cousin ou d'une tournature, il y a une espèce de presque de fatalité en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de sentiment de révolte dans ce film. C'est-à-dire que voilà, les choses sont comme ça. On vit une espèce de fléau quoi. C'est un fléau de effectivement de trouver du travail, de vivre. Et donc on s'adapte plus ou moins. Et donc, enfin, je sais pas si vous avez fait ça, mais les premières scènes du film, c'est un mélange à la fois de désespoir, de fatalisme, et de enfin, c'est triste, quoi. C'est très, très triste. Mais les gens acceptent, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix et ils peuvent pas faire autrement.
Elsa! Cherchais partout, moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu une biche.
Où ça?
Là-bas, à côté du camion.
Mon proprio m'a appelé. Il me dit que si j'étais pas partie ce soir, il me foutait dehors.
Qu'est-ce que tu veux faire?
Ben, je vais rester. Je vais pas me laisser intimider. J'ai pas le choix, de toute façon. C'est mon voisin, ça fait 3 mois que le proprio le menace, il a toujours rien fait.
Il n'y a plus qu'à faire des barricades ensemble, alors.
En plus, il fait des tirs à l'arc, mon voisin. Faut pas le chercher.
En atteignant le but, on manque tout le reste.
Tu connais ?
Ouais, j'ai trouvé un nouveau site de proverbe. J'aime bien. Ça me fait réfléchir.
Alors voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a, contrairement à ce que qu'on voit sur Paris, on a des SDF qui sont qui vivent leur situation de SDF en étant totalement seuls. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regroupement, il y a pas, on le voit dans le film, donc les deux, donc Denis Podalydès et puis Julie Gayet qui cherchent, on les voit se chercher tout le temps dans le film, mais sans avoir de moyens de se joindre. Et donc là, ça fait vraiment une différence notable, puisque bon, bah voilà, l'apprentissage de la vie, y compris dans la rue, c'est qu'on est tout seul. Donc la voiture est importante, elle est même essentielle. Le système D aussi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit cette jeune femme au départ qui donne des cours, fait une garde d'enfants. En ayant vendu le fait qu'elle parlait anglais alors qu'elle ne le parle pas, et puis qui à la fois travaille au noir. En fait, il y a une espèce de lâcher prise progressive qui fait qu'elle envoie, qu'elle se débarrasse de ses gardes d'enfants, qu'elle quitte son travail au noir et qu'elle se retrouve sans aucun revenu, à dormir dans un parc. Et dans ce sens-là, c'est un conte parce que, enfin. En fait, cette personne-là, à un moment, le film pourrait devenir dramatique au sens où on pourrait avoir le sentiment que qu'elle va mal finir, en fait, et que qu'elle va renoncer littéralement à rechercher. Voilà. Et là, enfin, moi, je trouve ça assez réaliste, en fait, hein, très très réaliste. Bien sûr. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut dire dans le film, ce qu'il a sort de là, en fait, c'est son enfant, quoi.
Et les études de lettres, vous êtes allé jusqu'où ? Je dirais à la fin du 19e siècle, les symbolistes. Non, mais je veux dire, vous avez eu quel diplôme ? Vous avez un DEUG ? Ah. Non, j'ai. Enfin, j'aurais bien aimé continuer, mais. Ce qui est très clair non plus quand on regarde votre parcours, c'est si vous avez passé votre diplôme d'infirmière ou si vous avez juste commencé le cursus. J'ai juste fait la première année d'école. Et pourquoi vous vous êtes arrêtée ? Ça ne m'intéressait pas comme métier. Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est pas marqué dans mon curriculum ? Non, c'est pas marqué. Non. Ce qui m'intéresse ? Il y a plein de choses. Professionnellement ? Oui, professionnellement. Bon, donc, vous n'avez pas de diplôme ? Ben, c'est bien, vous savez, d'avoir des diplômes. Hein. Ça montre que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, que vous êtes persévérante. Enfin, je veux pas dire que vous êtes pas persévérante, mais... Vous avez fait quoi après avoir quitté l'école d'infirmière, alors ? Ça va pas, vous sentez pas bien ? Vous voulez un verre d'eau ?
Non, mais on sent quand même qu'il y a, surtout pour elle, lui on sait différent, parce que lui il est dans un autre système de rêverie, enfin c'est autre chose. Mais elle, effectivement, on sent que le mal-être crée le blocage dans le cadre des entretiens, et qu'elle a du mal à s'en sortir, et qu'elle est vraiment dans une sorte de souffrance, tu l'as dit, souffrance, mais c'est-à-dire, c'est incompressible, c'est-à-dire qu'on sent que jusqu'à la fin du film, on se demande si elle va pas se suicider, quoi. C'était tellement elle est pas bien, quoi. Et il y a effectivement un certain nombre de rebondissements qui fait qu'elle se rattache donc à son voisin aussi, quelque part, mais également à son fils qui la maintient un petit peu au-dessus de l'eau, mais pourtant elle a toujours pas de boulot, elle a toujours pas de fric, elle a toujours pas de logement.
Et à un moment donné, il y a quand même, c'est très étonnant, quoi. C'est pourquoi Qu'est-ce qui vaut la peine finalement que je passe des entretiens, que je m'inflige toute cette souffrance, parce que on voit les entretiens, en fait ça vire au drame, c'est-à-dire qu'à la première question auquel elle ne peut pas répondre, elle s'effondre complètement. On a l'impression qu'elle est là parce qu'il faut y être, parce qu'il y a une injonction d'aller chercher du travail, d'aller s'insérer, mais en réalité elles sont soumises à une espèce d'inspection quand elle va aux entretiens. Vous n'êtes pas capable de faire ça, ça la renvoie à ses propres
il y a un mal-être absolu,
voilà. Et donc il n'y a pas aucune raison finalement de réussir un entretien. Et à un moment, donc, quand même, ce qu'il a après cette espèce de retraite et de vie d'errance, ce qu'il a sort de là, c'est le fait de devoir à un moment pouvoir voir son enfant qui a peut-être 10 ans et de pouvoir l'accueillir, et ça va gommer un peu tout le reste, c'est-à-dire que faire un boulot pénible, faire un petit boulot, ou ça c'est mieux que rien, ou c'est finalement pour quelle raison on va faire les choses, on va les faire pour des raisons élémentaires en fait, hein. Et là, on la voit presque réussir un entretien.
Oui, moi, j'ai pas trouvé ce film si sombre. C'est-à-dire que le sujet, leur manière de vivre est pour nous sombre. Mais eux, ils s'accrochent à un détail ou pas un détail, mais constamment, ce qui explique peut-être un petit peu le titre « 8 fois debout », c'est-à-dire que il y a cette espèce d'optimisme qui fait que il continue. J'ai pas du tout ressenti à l'intérieur du film, par exemple, l'idée qu'il pourrait se suicider. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça du tout. Hein.
L'idée qu'elle pourrait mal finir, en tout cas, hein, c'est-à-dire qu'elle aille vers une vraie clochardisation, qu'elle se mette à boire ou à rester dans cette situation-là, oui, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rebond. Le proverbe, c'est 7 fois par terre, 8 fois debout. Et c'est dommage parce que dans le film, 8 fois debout, ça reste un peu mystérieux, on sait pas trop de quoi ça parle. Mais 7 fois par terre, 8 fois debout, c'est... Et d'ailleurs, elle va se relever. Mais alors moi, ce que je trouve intéressant quand même, hein, c'est qu'à travers ça, pour les deux personnages, il y a clairement un rejet du travail, du monde du travail tel qu'il est proposé, quoi. En l'occurrence, bon, je veux dire, dans les entretiens, oui, ça se voit assez bien.
Bon, la femme, on lui propose comme boulot de nettoyer les autocars la nuit. Bon, c'est pas tellement sympathique comme boulot. Enfin, c'est.
Oui, mais
il faut le faire.
Des boulots.
Pour le gars, c'est encore pire. Alors, le doux rêveur, hein, la seule chose qu'il trouve comme boulot, c'est de proposer 3 images à des gens, un genre de sondage d'opinion commerciale, quoi, pour des portes blindées. En plus, c'est loin de sa philosophie. Enfin, voilà, c'est.
Oui, mais je trouve qu'il y a un truc, une vérité là-dedans, c'est que finalement, il y a des gens qui, en définitive, parce que lui, bon, il est quand même pas intellectuel, il y a des gens qui, en définitive, préfèrent faire des petits boulots. Qui ne demande pas trop la nénette, que plutôt que d'obtenir des boulots de cadre ou des boulots qui seraient plus qui seraient un peu différents, mais qui demanderaient beaucoup plus de tensions nerveuses, où on devrait être sous le regard des autres. Donc en fait le petit boulot, enfin en tout cas pour Denis Podalydès, on peut dire ça, c'est que le petit boulot est une forme de liberté, quoi. Il y a une phrase qui résume tout d'ailleurs. Qui touche sa cible manque le reste.
Oui, oui, oui.
Je dirais le doute. Oh, enfin, c'est jamais simple de dire comme ça à brûle pour point quelle est sa qualité principale. Mais je pense que, oui, pour moi, c'est la capacité à douter, à se poser des questions. J'aime beaucoup douter. Ça prend beaucoup de temps et ça demande une vraie discipline, mais je pense que dans le monde de l'entreprise, ça peut être très utile d'avoir quelqu'un, je veux dire dans une équipe, qui est là pour s'interroger sur le sens des choses. Ça peut créer une dynamique.
Alors moi, pour aller dans un peu dans votre sens aussi, c'est que je trouve que le titre 7 fois à terre, 8 fois debout, en fait, c'est le titre original là, qui est ensuite devenu 8 fois debout. C'est pour juste vous montrer qu'il y a effectivement encore un dernier espoir. C'est une fois qu'on est tombé au fond du trou, on peut toujours rebondir, quoi. C'est ça, c'est un peu l'idée. Bon.
Et est-ce il faut que dire c'est que toujours le cas.
Le genre, vous savez que ce film a été mis dans le genre des films du genre travailler moins pour vivre plus. Et c'est ça qui est important par rapport à ce qu'a dit Ludo sur les petits boulots pour permettre justement aux gens de faire d'autres choses à côté, de d'être sous une forme de certaine liberté, comme les boulots, par exemple, les boulots qu'on dit précaires, mais on je sais pas, tout ce qui concerne les enquêtes, les petits boulots comme ça, où on n'a pas automatiquement quelqu'un au-dessus de soi, ça laisse effectivement une certaine liberté. Alors par contre, il y a une contrainte à tout ça, c'est la paye qui ne va pas avec, ça c'est clair. Et on voit bien dans ce film qu'effectivement, elle fait des petits boulots, nettoie des cars, et puis elle est payée avec la manne, hein, donc l'argent liquide. Chaque fois, donc c'est le travail journalier, donc c'est à chaque nuit, elle reçoit la paye de sa nuit.
Tout ça au noir. Hein.
Tout ça au noir. Et donc, comme quoi, effectivement, là aussi, on est aussi dans la débrouille quelque part. Mais voilà, pour combien de temps est-ce qu'on peut pas trouver autre chose de plus sérieux? On est quand même un petit peu dans effectivement un système D aussi, quoi.
Ah, complètement, ouais. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qui change vraiment nettement par rapport au film précédent. C'est que là, on a des gens, par exemple, elle a des collègues qu'elle retrouve, je sais pas, une fois tous les deux soirs ou tous les soirs pour aller laver, voilà. Et il arrive quelque chose, un accident à une de ses collègues. Elle est obligée, c'est elle qui est obligée d'appeler l'hôpital parce que sinon il la laisse, voilà. L'entreprise la laisse sur place. Donc elle, à l'issue de ça, elle démissionne. Mais elle ne connaît pas le nom de la personne et elle sera incapable de la retrouver aux urgences. Et ça, je veux dire, c'est vraiment, dans ce film. Quelque chose qui est quand même très fort, c'est la solitude des individus, et en l'occurrence la solitude des précaires. S'il y a quelque chose qui reste, c'est le SDF, enfin elle SDF, elle peut rester SDF, personne ne va se soucier de son sort, même pas forcément les autres SDF, d'ailleurs qu'on va plutôt éviter.
Oui, l'exemple le plus marquant par rapport à ce que tu viens de dire, c'est quand elle fait semblant de tomber au sol pour voir si on vient la sauver.
Et elle ne déclenche que des rires. Parce qu'elle l'a fait exprès.
Elle ne déclenche que des rires, effectivement.
Parce qu'elle l'a fait exprès.
C'est quand même incroyable, cette scène. Et ça démontre quand même qu'effectivement, les gens, quelque part, en fait, on va dire la bonne société, ou la société des bobos, ou les gens qui ont un boulot, ou qui même n'en ont pas, mais qui vont en retrouver un très, très vite, ne se soucient que d'eux-mêmes. Et en fait, le reste du monde,
surtout se protège de ce qui peut, voilà.
Et ça, c'est vachement très très bien rendu, et je trouve que il y a une tentative quand même de l'auteur d'essayer de marquer les esprits. Donc, dans ce film, il y a vraiment un message qui est passé. Alors qu'on le voit moins dans le premier film qu'on a vu.
Moi, j'ai l'impression qu'il y en a deux, hein. Je veux dire, non, je veux dire, il y en a un, c'est quand même le travail n'est pas. N'a plus le facteur intégrateur qu'il avait. Au contraire, c'est une souffrance. Bon, ça, évidemment, tout le monde le sait. Mais en plus, c'est un parcours du combattant. Et puis, c'est se conformer à une certaine image, de soi ou qu'on nous a inculqué. Donc, ça, c'est la première des choses. Je veux dire, à la fin du film, il se retrouve avec Denis Podalydès et puis elle dit qu'elle est vendeuse. Et elle dit oui, bon, écoute, je suis sûrement la plus mauvaise vendeuse de la Terre. Et ça résume l'intérêt. D'ailleurs, elle va quitter ce boulot, elle s'en fout. Et en fait, elle a raison parce que voilà, il y a une espèce de détachement par rapport à ça. Et après, la deuxième chose, c'est que, en fait, apparemment, c'est quelque chose d'ultra contemporain. C'est-à-dire que ce qu'elle vit, et ce que vit Denis Podalydès, finalement, il y a des gens qui vivent ça, il y en a en pagaille. Et que, on est obligé de faire avec. Et la troisième message qui est plus ambigu, c'est que finalement on est responsable. À la fin, on est responsable de sa vie. C'est ce qui ressort de se dire à quel moment on va retrouver les ressources pour ou pas. Et donc après, moi, je pas de jugement sur le. Mais on a cette impression-là, c'est-à-dire tu apprends à vivre dans toutes les circonstances possibles, et ce qui ne tue pas rend plus fort. En fait.
J'emmène voir du théâtre de rue avec ses copains. Sinon, je serai dans la famille de Laurence. Et puis, de toute façon, c'est pas ton week-end. Tu devais venir le week-end dernier, t'es pas venu. Tu verras le week-end prochain.
Mais je sais pas si je pourrais. Je vais peut-être déménager.
Où ça? ça?
À Caen. On me propose du travail là.
À Caen?
Hmm?
Bah, c'est pas la porte à côté, ça.
Passe-moi Étienne, je veux bien lui parler.
Il est au lit, là. Il dort.
Bah, réveille-le.
Non, Elsa.
Laisse-moi lui parler. Je suis sûre qu'il s'en fout ton spectacle de rue d'abord. Et puis j'ai le droit de le voir.
Ouais, tu as le droit de le voir. Un week-end sur deux. Maintenant, quand c'est ton tour, tu viens jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Justement, je vais venir samedi. Alors tu me le passes.
Tu es où, là? Tu appelles d'où?
D'une cabine.
Il y a quelque chose qui va pas?
Non, je veux juste voir mon fils.
C'est très bien que je vais te dire non pour samedi. Alors tu veux juste qu'on se dispute? C'est ça?
Donc c'est, dans le film, on passe d'une espèce de tristesse, de fatalité, à finalement, bon ben, à se trouver en quelque sorte. Chacun en fait une bonne raison de vivre, ou dans l'autre, ou dans son enfant, ou dans... J'ai l'impression, hein, c'est ce qui ressort du film.
Oui, oui, mais c'est oui, bien sûr, mais c'est... Moi, je trouvais qu'il y a une scène dont on n'a pas parlé, qui est pour moi primordiale dans ce film, c'est la scène du jeu de ballon à la plage, où elle jette de plus en plus fort le ballon. Bon, il se trouve qu'il y a avant.
Elle vient d'apprendre que oui. qu'elle n'était pas prise dans son emploi de caissière. Et donc elle est en vacances avec son fils. Son fils à la plage, au bord de la plage, qui est dans l'eau et qui lui envoie le ballon alors qu'elle est sur la plage.
Tout à fait. Et il y a dans. Je sais pas si t'as remarqué tous ces silences, ces regards qu'elle jette à son gamin. Et on a l'impression que.
C'est terrible parce qu'en fait, on se demande. Oui. Elle lance le ballon de plus en plus loin.
Ouais. C'est pas envie de le noyer, quoi.
Alors, on se demande si elle veut s'en débarrasser, si on demande si elle veut passer sur lui ce qui lui arrive, c'est-à-dire que elle renvoie le ballon à quelqu'un, et à chaque fois on lui renvoie encore plus loin, elle doit encore faire une démarche encore supplémentaire.
Finalement, son fils n'arrive pas à rejoindre le ballon, elle va le chercher.
De courir le chercher, de le sauver. Et c'est une scène de clé, en fait, hein, quelque part, parce qu'à partir de là. Voilà. La chose change.
Il faut bien dire aussi que le gamin, il est particulièrement désagréable. Il voulait pas partir à la campagne avec elle, il voulait rester. Et puis, on s'aperçoit que le gamin n'a pas de considération au départ de la scène pour sa mère.
Ouais, tout à fait.
Considération. Et elle le ressent bien comme ça. Et ce n'est qu'après, au contraire, qu'il y a. Le gamin s'aperçoit que sa mère, elle était là quand même pour le sauver. Et que donc ils se demandent mais alors ton emploi et puis ceci, enfin le ton change aussi du gamin. Le gamin prend conscience que effectivement même si elle n'est pas toujours agréable, il a pu compter sur elle.
Oui,
il
parce
a pu
que...
compter sur elle alors qu'avant il n'avait aucune confiance en elle.
Alors parce que ce qui est vraiment important, enfin dès le début, c'est que finalement c'est une mauvaise mère. Apparemment elle s'est séparée, elle a eu cet enfant assez tôt. Parce qu'elle a quoi, la
oui,
trentaine,
très jeune, oui.
Et elle s'est séparée de son mari qui lui assure, enfin de son ex-compagnon qui lui assure, à part visiblement. Et donc pour le gamin, c'est d'abord une mauvaise mère qui est en espèce d'échec, d'incapacité à s'assumer. Donc ça effectivement c'est terrible, hein, pour l'enfant qui lui renvoie ça, jusqu'à ce que elle arrive à prouver qu'au-delà d'utilité, elle ait besoin qu'elle a besoin de lui, en fait, et donc et que lui-même a besoin d'elle, et parce que pendant pas mal de temps, il est incapable d'aller prendre en charge son gamin, de l'amener chez lui, et finalement elle fait le pas alors qu'elle est SDF. Elle va chercher son enfant alors qu'elle est SDF.
Et moi, je voulais juste revenir sur la différence entre les deux films, justement. Le Junio dans le premier film, en fait, ment à sa famille. Et elle, dans le second, dit toute la vérité à son fils quand il lui demande « Est-ce que t'as ton travail ou pas ?» Elle lui répond « Je n'ai pas eu la place. » Et là, c'est pour montrer à quel point la personne même, dans le plus grand malheur, peut encore avoir une certaine dignité. Et je trouve que ce film, justement, dans toute sa longueur, est assez digne Et c'est ça qui est marquant, quoi.
Mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut dire la vérité aux enfants, par exemple, sur sa situation? Et c'est-à-dire les mettre, leur faire comprendre très tôt la dureté de la vie, la réalité de la vie, etc., hein, de tout ce qui est en jeu, je sais pas.
Dans son rapport, justement, avec l'enfant, il y a une autre petite scène importante. C'est-à-dire que l'enfant essaye de l'aider en allant piquer dans le grand magasin. Alors évidemment, à la sortie, il y a le vigile qui a tout vu. Et bien sûr, le môme se fait engueuler, forcément. Mais je conçois bien que le môme ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il l'a fait pour essayer de l'aider. Mais évidemment, ça ne l'a pas aidé dans ce cas-là.
Voilà. Oui. Non, mais c'est, je trouve qu'effectivement, mais par contre, la mère, elle a quand même devant le garde, enfin, comment on appelle ça, le responsable de la sécurité du magasin, elle dit quand même, non, vous vous trompez. Bon, elle défend son fils alors qu'il y a des parents qui pourraient.
Oui, elle ne croit pas. Non, mais c'est ça qui est. Oh, oui. C'est qu'elle vole. Qu'elle le fasse, oui, mais enfin que son fils le fasse. Alors là, c'est inimaginable.
Inimaginable.
Et donc voilà, il s'est pour vous montrer que
c'est très bon film.
C'est un super film. Et donc l'actrice, elle est extraordinaire parce que
ils sont tous les deux très bien.
Parce qu'elle joue, on la voit passer d'un état où dans les entretiens, elle se décompose. À l'actrice qui a réussi parfaitement son entretien et a joué parfaitement la comédie, hein, pour avoir l'entretien.
Ouais,
et c'est pas évident, parce que c'est ça aussi qu'on demande à cette personne, c'est de jouer un jeu de rôle, en fait, hein, quand on.
Voilà. Et les passages aussi, ils sont très très drôles, c'est les passages où le mec tire à l'arc dans le jardin municipal. C'est très bon. Non, il y avait vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce film.
Donc il y a deux proverbes à retenir concernant ce film que. Il est resté très confidentiel, donc il s'appelle 8 fois debout, et donc le proverbe qui va avec, c'est 7 fois par terre, 8 fois debout. Et il y en a un autre, donc concernant le tireur à l'arc, qui va au but, manque tout le reste.
Alors cette émission se termine, je vous remercie de mes camarades de l'avoir faite avec moi, merci messieurs dames de l'avoir écouté, entendu. Je vous dis à la semaine prochaine, ou dans 15 jours, je ne sais plus. bisous aux filles et poignées aux garçons, ciao.
Bonne soirée.